Eh bien, je suis vraiment content d'être de retour avec vous. Et puis, salutations à ceux qui nous écoutent. Mon nom est Normand Joseph, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Je suis un des pasteurs ici. Moi, j'aimerais commencer ce matin. J'ai une grande question pour vous autres. Croyez-vous au miracle?
Oui.
Oui? Vous croyez au miracle? Non, il y a peut-être des doutes. Il y a peut-être des doutes dans l'Assemblée. Bien, ce matin, tu vas voir un miracle de tes propres yeux. D'accord? Ils disent « voir, c'est croire ». Pas sûr qu'on adapte, mais qu'on accepte ça, mais vous allez le voir de vos propres yeux. D'accord? Vous êtes prêts? D'accord, je vais vous faire ça, là. Vous allez voir, là. Je vais... Alors, j'ai besoin d'aide. Un, deux, trois, ensemble, vous travaillez très fort. Un, ensemble, là. Avez-vous vu? Oui! L'Église est un miracle. Ben oui! Oui! Absolument! Chaque année, on a un thème pour l'année, et puis le thème de cette année s'appelle « Ensemble ». Et puis, « Ensemble » parle justement de l'Église. Alors, nous allons commencer une mini-série qui va durer environ 4 semaines, qui va s'intituler justement « Ensemble ». Ça commence ce matin. Après, on va commencer une autre série qui est aussi intéressante, qu'on va appeler « Les paroles troublantes de Jésus ». Alors, on veut s'arrêter sur quelques-unes des paroles de Jésus qui sont premièrement difficiles, non seulement à comprendre, mais des fois même à accepter. Même les disciples, vous savez, dans Jean 6, après un enseignement de Jésus, les disciples ont dit « cette parole est dure. » Il y a des paroles dures comme ça. Alors, on veut s'arrêter pour regarder quelques-unes de ces paroles. Laissez-moi vous en donner quelques exemples. « Venez et mourrez. Vendez tout ce que vous possédez. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mangez ma chair et mon sang, et buvez mon sang. Laissez les morts enterrer leurs morts. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Si votre main vous pousse à pécher, coupez-la. Eh, mon doux. Alors, on veut se pencher sur ces paroles de Jésus et voir qu'est-ce que ça signifie pour nous autres. Mais pour commencer cette nouvelle saison qui débute en ce septembre, ce beau mois de septembre, on veut chercher à comprendre c'est quoi l'Église. Et c'est important parce qu'on veut vraiment comprendre cette communauté telle que le Seigneur le désire. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé ça « Ensemble ». Car l'Église, c'est la communauté créée par Dieu. On est l'Église. Nous sommes l'Église. Et plus on comprend c'est quoi l'Église et que l'on réalise à quel point l'Église est toute une bénédiction, plus on va, nos cœurs seront remplis d'adoration pour notre Seigneur. Jetez un regard sur cette œuvre qui est tout à fait surnaturelle qui est l'Église, va nous inspirer à célébrer notre Seigneur. Alors, on va juste courber un instant pour demander au Seigneur de bénir le temps qui reste ensemble. Eh bien, Seigneur, c'est une nouvelle saison qui commence et plein de nouvelles activités, de beaux ministères qui commencent, Seigneur. Et nous sommes comme ce jeune garçon avec quelques pains, quelques poissons. On t'offre vraiment ce peu que nous avons entre tes mains, que tu puisses les utiliser pour ta gloire, Seigneur. Bénis tous ces ministères qui commencent. Il y a tellement de ministères ici, on ne peut pas les énumérer, mais Seigneur, on te prie de bénir non seulement ceux qui vont bénéficier de ces ministères, mais aussi ceux qui offrent leurs dons et leurs talents et leur temps à préparer ces ministères. Merci pour ce temps que nous avons ensemble. Merci pour l'Église, cette belle famille où nous avons des frères et des sœurs ensemble. Et on te prie que ce matin, tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur afin qu'on puisse saisir encore un peu plus cette grande richesse qui est ton Église, cette belle famille, au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que l'Église? En fait, c'est une mauvaise question. Car quand la Bible parle de l'Église, elle ne parle pas de bâtiment, elle ne parle pas de regroupement, elle ne parle pas d'événements, elle parle d'un groupe de personnes. La question n'est donc pas qu'est-ce que l'Église, mais plutôt qui est l'Église. Quelqu'un a défini l'Église comme ceci. Il dit, l'Église est le peuple régénéré de Dieu, sauvé par la puissance de Dieu pour les desseins de Dieu dans ce monde. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne cesse pas d'être l'Église en quittant ce bâtiment. Quand tu sors des portes de ce bâtiment, c'est l'Église qui quitte. Tout ce qu'on fait, on le fait en tant qu'Église de Dieu, sauvée par le sang de Jésus et pour la gloire de Jésus-Christ. Et ça, c'est du 24-7, indépendamment où tu te trouves. Si tu s'en vas en vacances à Wildwood, c'est l'Église qui s'en va à Wildwood. L'Église, c'est nous. Wayne Grudem, dans son livre « Théologie systématique », définit l'Église de la manière suivante. Il dit « L'Église est la communauté de tous les vrais croyants à travers les âges. » L'Église, c'est une communauté. C'est une communauté de vrais croyants en Jésus. Alors, on veut s'arrêter un instant pour regarder non pas c'est quoi l'Église, mais bien c'est qui l'Église. Et ça commence avec Jésus. Jésus est le chef suprême de l'Église. Alors, tournez avec moi si vous avez votre Bible dans Matthieu 16, et on va aller voir justement un passage qui montre le fondement de l'Église. Et surtout, son créateur. Alors, Matthieu 16, verset 13. On va aller jusqu'au verset 18. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. J'attire votre attention sur l'endroit. On va y revenir dans un instant. Alors, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Bien, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? » leur dit-il. Eh bien, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église. » Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Je reviens avec le verset 18 qui dit, Jésus dit, « Je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne résisteront pas, ne tiendront pas sur elle. » Jésus dit, « C'est mon Église, c'est moi qui vais la bâtir. » Et le mot « bâtir » parle évidemment de construction. L'Église est le projet de construction de Jésus. Et nous sommes son chantier. Je suis allé voir le dictionnaire Antidote, comment ça définit le mot « chantier ». Et ça dit ceci, « Endroit où ont lieu des travaux de construction, de réparation et de démolition. » Eh bien, c'est ce que le Seigneur Jésus fait avec nous autres. Jésus nous construit, nous édifie. Parfois, il doit réparer certains aspects de notre caractère et parfois, il doit même démolir certaines mauvaises habitudes qu'on a développées au fil des années. Il est en train de te bâtir, de te transformer puisque pour que tu un jour, tu ressembles de plus en plus à lui. Tu es en train de transformer ton caractère. Parfois, on peut passer par des moments difficiles dans notre vie, mais il faut se souvenir toujours de ce que le Seigneur est en train d'accomplir et faire dans ta vie. Il ne faut jamais oublier cette vision que ce que le Seigneur est en train de faire avec toi. Tu es entre ses mains et il est en train de travailler ton caractère, travailler ton cœur. Vous avez probablement déjà entendu cette histoire du gars qui arrive sur un chantier de construction, puis il y avait des maçons qui étaient là. Donc, il s'en va voir le premier maçon, puis il lui dit, « Qu'est-ce que tu es en train de faire? » Le gars lui dit tout de suite, « Mais il dit, tu ne vois pas, je suis en train de tailler une pierre. » Alors, il s'en va un petit peu plus loin, il voit un deuxième maçon, puis il lui demande, « Qu'est-ce que tu es en train de faire? » Le gars, il répond, « Je suis en train de construire un mur. » Ah, OK. Alors, il continue sa marche. Il va voir le troisième maçon et il lui dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Ben, il dit, « Je suis en train de construire une cathédrale. » Trois maçons, mais une vision tout à fait différente. Certain que le troisième maçon, lui, était beaucoup plus inspiré et motivé à faire son travail parce qu'il gardait cette vision du produit fini, de big picture là, dans sa tête, dans son cœur. Moi, je ne sais pas ce que tu vis présentement, mais Jésus est peut-être en train d'enlever un morceau de ta vie, il est peut-être en train de faire des choses dans ta vie et parfois, c'est des épreuves qui sont difficiles. Mais Jésus est en train de te transformer tranquillement pour sa gloire. Et c'est ce que Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Il dit, « De même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. » C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Jésus est en train de bâtir son Église. Et il dit au verset 18, « Je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » C'est intéressant de savoir que Jésus choisit le meilleur endroit possible pour faire cette puissante déclaration. Ça nous dit déjà dès le départ du chapitre, ça nous dit que Jésus emmène ses disciples à Césarée de Philippe. Il faut savoir que c'est un endroit où il y avait une histoire tragique et dramatique. Il y a toute une histoire derrière cet endroit. D'ailleurs, on apprend d'ailleurs dans la littérature juive que les rabbins disaient que lorsque le Messie viendrait, les portes de Césarée-Philippe allaient s'effondrer en raison de l'immoralité de l'endroit. Mais ce n'est pas pertinent que Jésus est là, Jésus est le Messie, et c'est là qu'il se fait déclarer le Messie devant ses propres disciples. Jésus est en train de dire, « Je suis le Messie qui vient effondrer les portes du séjour des morts. » Jésus dit, « Je vais bâtir mon Église et les forces du mal ne seront pas capables de résister devant la puissance de l'Église. » On pourrait exprimer le verset 18 de la manière suivante. « Les portes du séjour des morts ne tiendront pas devant la puissance et les assauts de l'Église qui proclame le message de l'Évangile. » Par le message de l'Évangile, les gens viennent à Jésus et le diable ne peut rien y faire. L'Église va grandir. Les gens viendront au Seigneur Jésus. L'Église prend d'assaut les forces du mal en proclamant le message de l'Évangile. L'Évangile transforme des vies, les arrache du royaume des ténèbres. D'ailleurs, Romains 1, 16 le dit bien, que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Et cette puissance de l'Évangile qui transforme des vies se voit particulièrement bien lors de la naissance miraculeuse de l'Église. Une fois ressuscité d'entre les morts, Jésus envoie son esprit sur ses disciples alors qu'ils sont à Jérusalem. Maintenant, les gens qui sont là voient des gens parler dans leur propre langue et leur propre dialecte. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Mais là, Pierre va se lever et les gens entendent parler dans leur propre dialecte des merveilles de Dieu. Il y a plusieurs dialectes, plusieurs personnes, plusieurs nations qui sont présentes à Jérusalem à cette occasion. Et Pierre va se lever, il explique ce qui se passe et il annonce le message de l'Évangile. On peut lire la conclusion de son discours, justement, dans Actes 2, 36, où il est dit « Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie le Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, il eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur dit, « Changez d'attitude, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et verset 41 ajoute ceci, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés en ce jour-là et le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Ah, imagine, là. On n'aurait pas de place ici, les accueillir, vraiment. 3000 personnes d'un coup, là. On voit l'Église grandir de plus en plus à travers le livre des Actes. On peut lire au chapitre 6, verset 7, « La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Il y a une grande foule même de prêtres, les chefs religieux, obéissaient à la foi, se convertissaient à Jésus. » Un peu plus loin, d'ailleurs, au chapitre 9, nous lisons 31, verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Et ça continue encore aujourd'hui. D'ailleurs, les sociologues estiment que déjà dans les premiers siècles de l'Église primitive, lorsque c'est né, juste déjà dans les premiers siècles, des millions de personnes sont venues au Seigneur Jésus. Et ça continue encore aujourd'hui. Et il faut pas oublier qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de TV, pas de Facebook, pas rien, là. Le message propageait à une vitesse incroyable. Comment c'est possible? Mais parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. Et il continue de bâtir son Église. Il y a un passage qui est vraiment intéressant dans la lettre aux Éphésiens, où Paul va écrire dans Éphésiens qui se trouve justement dans la ville d'Éphèse, en Asie mineure. Et chapitre 2, verset 17, Paul va dire quelque chose de vraiment intéressant, étrange même. Il dit « Jésus est venu annoncer la paix à vous. » À vous, à Éphèse, qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse qui se trouvent en Asie mineure. Il dit « Jésus est venu vous annoncer la paix à vous qui demeurez en Asie mineure. » L'Asie mineure est, qui est aujourd'hui la Turquie. Mais pourtant, Jésus n'est jamais allé en Asie mineure. Alors, comment peut-il dire que Jésus est allé en Asie mineure leur parler de la paix alors qu'il n'est jamais allé? Tim Keller fait l'observation suivante, que je trouve vraiment intéressant. Il dit, voici ce qu'il dit. Il dit, ce qu'il veut dire, c'est que quand un chrétien, un enfant de Dieu, est allé leur annoncer l'évangile de paix, en fait, c'est Jésus qui est allé leur annoncer l'évangile. Hey, c'est fort, ça. Jésus annonce l'évangile à travers son Église. Jésus se sert de nous, l'Église le sentier, pour répandre son message. L'Église, c'est donc pas un quoi, c'est un qui. Et ça commence avec le chef suprême de l'Église, qui est Jésus. Le qui comprend aussi les enfants de Dieu. Ensemble, nous sommes la famille de Dieu. Lorsqu'on vient à Jésus pour recevoir son salut, lorsqu'on place notre foi en Jésus, qu'on croit à son sacrifice sur la croix, pour pardonner nos péchés, Dieu nous donne une vie, une nouvelle vie spirituelle. Il change ton statut légal devant lui. Il nous adopte. Il fait de nous des membres de sa famille. D'ailleurs, l'apôtre Jean va parler de l'adoption en Jésus déjà au début de son évangile. Et l'adoption est une doctrine très importante dans les Écritures. Je vous invite même à vous arrêter pour aller plus loin dans cette étude sur la doctrine de l'adoption. C'est tellement riche. Ça parle de notre nouvelle identité en Jésus. Et Jean 1,12 va dire ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir un enfant de Dieu. » Paul aussi parle de l'adoption de ceux qui viennent à Jésus. Dans Galates 4,4, dit ceci, « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est le cri d'un bébé, ça. « Papa ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Tu es un héritier. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour racheter le monde. Et quel a été le résultat? On a reçu les pleins droits des fils. Il faut savoir que dans le monde gréco-romain, il existait une transaction légale. Tu pouvais adopter un adulte. Si tu étais âgé, par exemple, tu n'avais pas d'enfant, tu étais riche, tu n'avais pas d'héritier, tu pouvais adopter un fils adulte. Maintenant, on pourrait le faire aujourd'hui, mais c'est plutôt rare. Par exemple, si le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, n'avait pas d'enfant, puis il venait me voir, milliardaire, puis il disait, « Normand, je suis vraiment mal pris, je ne sais pas quoi faire avec mon argent, je n'ai pas d'enfant. Accepterais-tu d'être mon fils? Je t'adopterais. Tu deviendrais mon héritier. » Ben, je dirais, je peux faire ça, c'est correct. Mais à l'époque, ça se faisait. C'est rare aujourd'hui, mais à l'époque, ça se faisait. Lorsqu'une personne riche, qui n'avait pas d'enfant, prenait de l'âge, cette personne pouvait adopter un fils adulte. Adopter, dans le fond, un héritier. Alors, lorsque les papiers légaux étaient remplis, le statut changeait en une seconde. Et cette personne était désormais un héritier. Maintenant, Francis Lial s'est vraiment arrêté toute cette question des coutumes de l'époque, de l'adoption et tout ça. Il a écrit un livre qui s'intitule « Slaves, Citizens, Sons ». C'est vraiment intéressant ce qu'il explique. Il explique que dans les adoptions romaines de l'époque, l'adopté sort de son état antérieur et il est placé dans une nouvelle relation de fils avec son nouveau père. Toutes ses anciennes dettes, parce qu'on parle d'un fils qui est adulte, là, d'accord? Toutes ses anciennes dettes ont été instantanément annulées et en fait, l'adopté commence une nouvelle vie en tant que membre de sa nouvelle famille. Il y avait donc un côté négatif et positif. En fait, tout est positif dans cette histoire. Néanmoins, on va parler comme ça. Négatif dans le sens qu'on va faire, on va enlever. Négatif dans le sens où on enlève toutes les dettes de la vie passée du nouveau fils adopté, comme celui qui vient au Seigneur Jésus. Sa dette, ses péchés sont enlevés, sa culpabilité est enlevée. Mais il y a aussi un élément positif, un ajout. Alors, on soustrait, on enlève les dettes passées, et voilà qu'on ajoute un nouveau statut de fils. Et qui dit fils, dit héritier. On reçoit non seulement le pardon, mais on est adopté. On a maintenant un statut juridique. Nous sommes des enfants de Dieu légalement adoptés grâce à Jésus. Je suis donc maintenant accepté de Dieu, adopté, je suis en sécurité, ma relation avec Dieu, elle est garantie. Maintenant, tantôt, le verset disait que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et là, au verset 6, il est dit que Dieu envoie son Esprit Saint dans notre cœur. Il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Pensez-y, ce verset-là est pas mal puissant. Là. Le Saint-Esprit qui habite en nous crie. Il crie. Le mot dans l'original, c'est un mot très fort. Tout d'abord, il s'agit d'une passion et d'un sentiment profond. On parle de quelque chose qui est très, très solide, très fort, très profond ici. Le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous. Il confirme, il nous rassure que nous sommes les enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui développe cette intimité, ce sentiment d'être proche, cette relation intime qu'on ressent avec Dieu. L'œuvre de l'Esprit est aussi de nous emmener à prier. Il nous pousse, il nous incite à faire appel à Dieu. Un frère me racontait l'autre jour qu'il passe à travers des moments très difficiles et ce qu'il fait, lui et son épouse, et ce qu'il fait, c'est que le soir, il s'en va dans un parc pour prier. Mais ça vient d'où, ça? C'est le Saint-Esprit qui fait ça, qui donne cet appel, ce cri du cœur de pouvoir s'approcher de Dieu. On a donc cette assurance de pouvoir nous approcher de Dieu. Maintenant, le mot « Abba » était le cri d'un bébé. Et quand un bébé crie, là, est-ce que le bébé doute qu'un moment où papa va venir me chercher? Puis soyons honnêtes, quand le bébé crie, là, c'est comme si Dieu les a doués d'une voix de soprano. Ça crie, mon ami, c'est comme un octave, comme pas. Ils n'ont peut-être pas encore inventé. Je pense que c'est même pas soprano. Il y a quelque chose plus haut à quelque part. Ça vient te chercher, tu n'as pas le choix, tu vas aller chercher. Mais est-ce que l'enfant va se poser la question? Je me demande si maman ou papa va venir me chercher. Il ne s'en pose pas de questions. Il crie. Tu vois? Tu vas aller le chercher. Le bébé lève simplement ses mains. Il ne se casse pas la tête pour savoir si tu l'aimes. Il s'attend que tu viennes le prendre. Et c'est ce que l'Esprit est en train de nous montrer ici à propos de Dieu. Il faut s'arrêter à ça. C'est fort là, ce qui est dit ici. C'est très fort. C'est ça que l'Esprit est en train de nous montrer ici par cette parole. Le Saint-Esprit te dit, ne doute pas de son amour pour toi. Quel amour! Pensez-y, Dieu s'est même arrangé pour que tu lui fasses plus confiance en plaçant son esprit dans ton cœur qui te chuchote constamment, vas-y, vas-y. Tu peux lui faire confiance. Tu peux prier. Vas-y. Comme le bébé fait confiance à ses parents. Est-ce qu'on réalise le privilège des bénédictions qui découlent de notre relation avec le Père grâce à Jésus? En réfléchissant à tout ce que Dieu a fait pour nous, l'apôtre Jean s'exprime en disant dans 1 Jean 3, « Voyez quel amour! » On va revenir sur le mot « quel » ici, là. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Jean, là, est tellement, tellement émerveillé par l'amour de Dieu qu'il va parler de l'amour de Dieu plus de 9 fois juste dans ce chapitre-là, au chapitre 3. Et chapitre 4, le chapitre suivant, plus de 27 fois. Jean est émerveillé par l'amour de Dieu. Et regardez ce qu'il dit au début. Il dit, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Vous voyez cette expression-là, « Voyez quel amour ». Eh bien, le mot « quel » ici, c'est le même mot que les disciples ont employé lorsqu'ils parlaient des magnifiques pierres massives, extraordinaires, du temple de Jérusalem. Vous vous souvenez dans Marc 13, 1, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction! » Eh bien, Jean dit, « Quel amour le Père nous a témoigné pour qu'on soit appelés des enfants de Dieu! » L'une des grandes bénédictions, notre adoption comme enfant de Dieu, et qu'on peut parler à Dieu comme un Père qui est plein d'amour, plein de tendresse envers nous. Et cet amour pour nous, comme Père, signifie qu'il nous comprend. Il se soucie de nous, il veut prendre soin de nous. Et Jésus dit aussi que comme Père, il sait nous donner de bonnes choses, ce qui est bien pour nous. Il nous donne son Esprit Saint qui nous console, qui nous équipe aussi. Il nous donne la puissance aussi de mener une vie chrétienne. Et il nous a placés dans une belle famille. Sa famille, la famille de Dieu, où nous avons des frères et des sœurs en Jésus-Christ. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Ensemble, nous avons une nouvelle famille. Un nouveau statut. Une nouvelle identité. Grâce au Fils de Dieu. Et c'est lui qu'on veut célébrer. On veut célébrer le Fils. On veut chanter un chant de louange tantôt. Le Fils. On veut l'honorer, l'adorer, le célébrer. Tout ce qu'il a fait. Et on veut prendre la Sainte-Cène, on veut prendre ensemble, partager le pain et la coupe tantôt pour se souvenir de ce que Jésus a fait. Grâce à lui, on fait partie de l'Église. Mes amis, l'Église nous donne un avant-goût du ciel. Et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, parce que vous allez dire, « Mais non, il me semble que l'Église n'est vraiment pas parfaite. Elle est loin d'être parfaite. » Peut-être, mais l'Église est vraiment un avant-goût du ciel, de plusieurs manières. Tout d'abord, les enfants de Dieu désirent plaire au Sauveur, comme on va le faire au ciel, n'est-ce pas? On désire aussi offrir au Seigneur notre adoration, ce qu'on va faire pendant toute l'éternité. Et on profite aussi d'une riche communion les uns avec les autres. N'est-ce pas? C'est un avant-goût de la communion parfaite qu'on va partager un jour avec tous les croyants, de tous les âges. Quelle joie de faire partie de l'Église, du peuple racheté, qui attend le retour et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, notre Sauveur Jésus. Jésus est le chef suprême de l'Église. Et nous sommes sa famille. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, un peu comme Jean, quoique Jean recevait toute cette révélation de ton Esprit Saint, mais comme Jean, nous voulons te dire merci pour ton amour. Quel amour! Quel amour! Tu nous as adoptés. Grâce à Jésus. Pour ceux qui sont en lui, Seigneur, en Jésus, tu nous donnes même le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de ta grande bonté. On te loue, Seigneur, nos cœurs sont pleins d'adoration pour toi, pleins de reconnaissance. Ce matin, on veut prendre cette coupe et ce pain en mémoire de ce que Jésus a fait. Il est venu dans ce monde pour racheter un peuple, pour adopter des enfants, afin que nous puissions devenir des héritiers du ciel. On te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider cette semaine à te glorifier par notre vie, par une consécration, une obéissance à ta parole. On te prie, Seigneur, que ton esprit nous ramène constamment dans notre cœur ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. On veut pas oublier, Seigneur. On veut aussi partager cette bonne nouvelle. On est tellement triste de savoir que des gens autour de nous, parfois, te rejettent, te refusent, alors qu'ils seraient tellement riches spirituellement parlant. Comme Paul a dit dans Éphésiens 1, Dieu nous a bénis de toutes les richesses spirituelles. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.